Ah, c'était vous, chers auditeurs. Chut, parlez pas trop fort. En tout cas, c'est quand même dingue, cette capacité que vous avez de réussir à toujours me trouver quand je ne suis pas chez moi et que je n'ai prévenu personne de ma destination. Je vais finir par croire que vous m'avez pucé, hein. Oui, voilà, oui, pardon. Je parle tout bas parce que je me livre, tenez-vous bien, à une activité qui est un chouïa illégal, oui. Mais rassurez-vous, hein, cette fois c'est pour une bonne cause, hein. Si. Oui, voyez-vous, depuis quelques semaines, une tribu de wesh, enfin, tribu, horde, meute, je sais pas le terme scientifique exact pour ce style de cette espèce d'individu, hein. Eh bien voilà, ce livre a du vandalisme, hein. Il souille honteusement un mur de pierre séculaire qu'il y a dans mon quartier avec leur tag immonde qui ne veulent même rien dire, hein. Les mecs, ils doivent être dyslexiques parce que quand on arrive un petit peu à déchiffrer les lettres qui taguent comme ça, en gros, bah, ce sont des mots qui n'existent pas et qui veulent rien dire. Ah, voilà, donc c'est débile. Et en plus, c'est moche. Voilà, donc moi j'en ai un petit peu marre. Alors je pratique une chose que, que j'ai inventée grâce à mon esprit formidablement intelligent et que j'appelle le sabotage. Oui, je me suis procuré une merveilleuse bonbonne de peinture rose fluo et donc voilà, je profite que, que c'est la pleine nuit, que la rue est déserte, que tout le monde fait dodo pour venir discrètement recouvrir ces tags immondes de divers insultes, voilà, des insultes, des mots bien pensés d'un citoyen qui se sent concerné par le problème et qui veut plus voir ce genre de cochonnerie dans son quartier, voilà, parce que bon, ça, c'est vrai quoi, ça, non seulement c'est moche, mais en plus, ça dévalue le prix des maisons, oui, ça dévalue les maisons du quartier, ça, alors ma maison, je sais pas, bon, j'ai oublié combien elle vaut, mais après un coup pareil, elle vaut un peu moins que j'ai oublié combien elle vaut, et ça, je suis pas d'accord, hein, non, je refuse, même si je compte pas la vendre, c'est une question de principe. Donc voilà, donc avec ma bonbonne fluo, de peinture fluo rose, là, j'écris des mots comme genre, achetez-vous du talent, c'est trop moche, bande de gros nazes, loser. Voilà, donc voilà, je vais encore en écrire une petite dernière. Et voilà, petite bite, hein, je sais que les wesh sont très susceptibles, hein, sur ce sujet-là, et donc ça va bien les emmerder et je suis content. Voilà, donc écoutez, chers auditeurs, ça c'est fait. Au cas où je me serais fait repérer par les voisins, bon, j'ai quand même pris la peine de secouer mes bombes chez moi avant de venir pour pas le faire ici, pour pas risquer de me faire remarquer, mais à tout hasard, hein. Moi je vais partir par là-bas, hein, donc dans le côté de la rue opposé à celui où est ma maison, puis je vais faire un petit détour pour revenir à ma maison par l'autre côté. Pendant ce temps-là, je vous invite à aller m'attendre chez moi, c'est ouvert, hein, donc allez-y, et attendez-moi, servez-vous un martini si vous voulez, et servez-moi un aussi, hein, parce que voilà, dans 10 minutes, je vous rejoins et on pourrait, pourquoi pas, si vous le voulez, se retrouver pour une nouvelle histoire. Hein. Allez, à tout de suite. Hein. Eh ben, je m'épate, hein. Je pensais en avoir pour 10 minutes, et j'ai finalement réussi à faire le tour du quartier en seulement 18 secondes, hein. Pouf, quelle forme, hein. Oh, et merci pour le martini. Santé. Ah, comme je l'aime, hein. Bon, eh bien, puisque vous semblez bien installé, et si vous êtes prêts, peut-être pourrions-nous embrayer de suite sur cette dernière histoire de la saison 8, n'est-il pas? Bien, alors, c'est parti. Nous sommes 31 années avant l'incident des carottes de Samuel, toujours dans notre cher royaume lointain sans lettres, lequel, à cette époque, traversait une sombre période. Cela avait commencé de façon à peine perceptible pour rapidement croître progressivement en intensité. D'abord, il y eut les épidémies de grippe et les nuées d'insectes, venant d'on ne sut jamais où, et qui firent périr bien des enfants pour l'une, quand l'autre provoqua l'inoubliable disette de cette année-là à cause des cultures ravagées. Puis ce furent les rats. Ils envahirent les maisons, en ville comme en campagne, rongeant les maigres provisions restant dans les caves ou les cuisines, et trucidant les chats qui s'opposaient à eux. Ensuite vinrent les loups, armées canines devenues soudainement aptes à une discipline et une coordination stratégique qui n'avaient rien de naturel. Et les troupeaux furent massacrés et dépecés sans vergogne, pour peu qu'un malheureux éleveur n'eût pas solidement barricadé ses bêtes pour la nuit. Les royaumes lointains sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, qui est un sol propice à la poussée des carottiens, étaient en proie à l'épouvante. En outre, leur souverain, Gaston XVII, ne fit rien pour eux, convaincu qu'il était qu'il s'agissait là de nouvelles excuses de ses paysans pour se soustraire au paiement des impôts. Du reste, le monarque était alors bien trop occupé à concevoir ses plans militaires et à dessiner de nouvelles ébauches de frontières pour son territoire.
Oui, une frontière. frontière en forme de carotte, ça ne serait pas mal. C'est en rapport avec le légume national, en tout cas. Mais ça ne fait pas peur. Quel symbole pourrait donc inspirer à la fois crainte, envie et respect?
Près d'un an plus tard, au moment de la préface, alors que la population commençait à peine à se remettre, tant bien que mal, des fléaux qu'elle avait vus déferler et ne cesser que très récemment, un autre phénomène inexplicable se produisit sans prévenir. Certes, il fut tout d'abord, en tout cas très local, relatif à la seule ville de Voisinia, mais très vite, la nouvelle se répandit, et les cœurs se glacèrent à nouveau devant l'annonce d'un avènement des plus indésirables, d'un présage désespérant. Et c'est comme souvent, en grand désespoir de cause, et lorsque l'autorité reste sourde aux appels à l'aide, que du secours fut demandé aux personnes les plus inattendues, dans un village à quelques heures de la capitale.
Bonsoir, maître Proutlard.
Ah, Archibald, mon cher disciple! Qu'est-ce qui me faut le plaisir?
J'ai terminé la potion que vous m'aviez donné à faire comme devoir pour la semaine. Je venais vous la remettre.
Ah bon, je t'avais demandé une potion? Bon, eh bien, soit. Entre donc et viens souper! Et tu resteras bien pour la nuit, hein? Le soir tombe, je ne vais pas te renvoyer dans ta grotte directement quand même!
C'est aimable à vous, d'autant que ça représente 5 heures de marche. Vous êtes vraiment sûr que je suis tenu de vivre dans une grotte, dans la forêt? Ça fait vraiment partie du cursus du druidisme?
Ben oui, voyons, c'est comme ça depuis toujours. Et c'est quand même pas ma faute si on n'est pas bien servi en grotte habitable dans la région.
Et par curiosité, qu'en pensent les autres élèves?
Il n'y a plus que toi en fait.
Comment? Les 3 autres ont laissé tomber?
C'est-à-dire, Nicolas a septuplé sa 2e année, et il a encore échoué les derniers examens, donc bah c'était pas la peine d'insister, hein. Et Denis, cette pauvre âme a une nouvelle fois raté une potion et...
C'était ça la colonne de feu qui montait jusqu'au ciel pendant tout l'après-midi de mardi dernier.
Oui, voilà, et enfin Mouloud a voulu arrêter parce que sa foi l'obligeait à aller faire je ne sais quelle guerre idiote dans l'Est. Mais c'est très décourageant tout ça, tu sais. Déjà qu'il naît de moins en moins d'enfants avec des dons de magie ces dernières années, si de surcroît ils ne terminent même plus leur formation, notre profession risque bien de disparaître. Ça pue grave de la race de sa mère, mon gars.
Vous dites ?
Oh, pardon, c'est une expression que Mouloud employait souvent, et c'est sorti tout seul. Mais bref, assis-toi donc, Archibald. J'ai préparé de la délicieuse soupe de carottes. Mais je n'ai plus de pâtes, par contre, disette oblige.
Et c'est alors, à l'instant où la première cuillerée de soupe chaude allait pénétrer la béante bouche béatement souriante du vieux maître Proutlard, que les appels à l'aide se manifestèrent brusquement.
Ah, ça c'est sûrement Mouloud qui repasse en vitesse. Il est parti avant-hier en oubliant ici une de ses ceintures bizarres qu'il fabriquait, là. Celle avec des fils de couleur et plein d'étranges petits tubes rouges sur le pourtour. Il doit vouloir la récupérer.
Le jeune Berlu se leva pour aller ouvrir la porte. Fuyant l'obscurité tombante, se précipita alors à l'intérieur un homme cinquantenaire de pauvre condition, essoufflé, en sueur et manifestement rongé d'inquiétude.
Ah ben c'est pas Mouloud, ou alors il a beaucoup changé, hein.
Le maître Proutlard fit s'asseoir l'homme, et à ce dernier, une fois son souffle repris, d'expliquer les raisons de sa venue.
C'est terrible, monsieur le mage. La ville où j'habite est en proie à un nouveau fléau, peut-être bien plus grave que tous les fléaux précédents réunis. C'est ma fille.
Votre fille est un fléau? C'est-à-dire, elle cuisine mal? Elle chante faux mais rêve d'être cantatrice et vous impose un pénible entraînement journalier? Elle a la ch'touille et la repasse à tous les garçons? Elle vous harcèle pour avoir un poney?
Bien pire que cela, monsieur. Elle, depuis peu, il s'est avéré que... c'est une sorcière.
Une magicienne à dessein égoïste, donc. Cela n'est pas bien grave, il suffit qu'un magicien plus puissant l'affronte et la fasse fuir et ce sera réglé.
J'ai peur que ce ne soit pas si simple, messire. Ma petite Marie-Gabrielle a complètement perdu l'esprit du jour au lendemain. Je ne la reconnais plus, et ses pouvoirs sont terrifiants. Elle a réveillé les morts, rendez-vous compte. Ils sont sortis du cimetière et se sont propagés dans les rues, telle une armée. Et ils lui obéissent. Ma fille a pris le pouvoir et tient le peuple sous son joug. Esclave et prisonnier des murailles, elle fait exécuter quiconque tente de s'opposer à elle. Elle trône à présent dans l'hôtel de ville et, paraît-il, rêve d'étendre son emprise à tout le royaume.
Eh ben, de bien grandes ambitions tout ça pour une petite femme.
C'est aussi là une chose effroyable, monsieur le sage. Marie-Gabrielle n'a 11 ans et elle a conquis toute la cité de Voisinia hier, en une soirée seulement.
11 ans? Voisinia?
Les sorciers misent souvent sur la peur et les apparences pour arriver à leur fin, mais ils ne sont pas invincibles, n'est-ce pas, maître ?
Tout à fait, vous avez frappé à la bonne porte, mon bon monsieur. Mon disciple se fera une joie de vous suivre à Voisinia pour raisonner votre fille.
Comment ? Moi, maître ? Mais vous ne venez pas ?
Moi ? Non, je suis bien trop vieux. Je ne dirai pas l'âge que j'ai, mais tu remarqueras que, actuellement, je suis déjà un vieux maître. Et ceci même si je serai encore là dans 30 ans, notamment pour aider un comptable frigide qui aura des problèmes de couple. Mais peu importe cela, car dans le déroulement des histoires de type quête du héros, issue des comédies grecques antiques, c'est le jeune héros qui se voit confier une quête, et le vieux sage, il est juste là pour donner des conseils, pas pour crapahuter en pleine nuit alors que sa soupe refroidit, hein. Tu es bien ignorant, mon jeune disciple, je suis très déçu.
Maître, vous êtes un très grand druide et je vous respecte, mais vous mentez très mal.
Bon, j'ai plein de dettes de jeu à Voisinia. Et dans le passé, j'y ai quitté de nombreux bordels sans payer. Voilà, du coup, je ne suis plus le bienvenu là-bas. D'ailleurs, tu ferais mieux de ne pas dire que tu viens de ma part, hein. Et puis aussi, tu sais, quand même, en qualité de pédagogue soucieux de ta progression, mon brave Archibald, je pense que cette expérience pourrait représenter un excellent travail de fin d'études. Je vais te donner de quoi faire la route, et j'espère quand même que tu as bien travaillé tes sorts de défense depuis l'année dernière, hein.
Le maître Proutlard offrit à son élève une pleine gourde de soupe à la carotte, après quoi il lui confia une dague très ancienne. Cette arme fut jadis enchantée par un éminent druide montagnard pour percer le cuir des magiciens dangereux, leur injectant un puissant sort qui neutralisait leur pouvoir pendant une journée. Objet dont le vieil enseignant se servait jusque-là pour peler ses carottes.
Ben quoi, ça empêche pas, et ça donne un petit goût en plus.
Et c'est ainsi donc, en portant le tout dans une besace, que Berlus sortit dans la nuit noire, accompagné de leurs visiteurs, lequel le guiderait jusqu'à la ville de Voisinia. En cours de route, son guide confia à Berlus être inquiet au sujet de la dague. Notre ami aspirant druide le rassura.
Je n'utiliserai cette arme que si les pouvoirs de votre fille devaient surpasser les miens de trop loin, ce dont je doute vu son jeune âge. Et le cas échéant, je n'escompte pas la tuer, seulement la neutraliser, je vous rassure.
La marche fut longue et les deux hommes n'arrivèrent qu'à l'aube à destination. Il leur fallut alors répondre à l'énigme des deux sphinx qui gardaient l'entrée de la cité, ce que le guide put faire aisément, lui, citadin local, et donc accoutumé à cette procédure. Après cela, il fut question que Berlus soit emmené dans la cave d'une auberge, foyer de la résistance voisinienne, groupement dont faisait partie le pauvre père de la sorcière, et qui s'était la veille porté volontaire pour aller quérir l'aide du très connu maître Proutlard. Cependant, au fil de l'avancée de nos amis parmi les rues urbaines, le dit papa sembla manifester comme un sentiment d'intrigue.
C'est curieux. Les rues sont presque désertes de ces horribles morts-vivants. Nous n'en avons à peine croisé que quelques-uns. Avant mon départ, il fallait presque se frayer un chemin parmi eux. Où sont-ils tous ?
La surprise de nos deux voyageurs fut des plus énormes alors qu'ils arrivèrent sur la grande place. Le spectacle qu'ils y découvrirent les laissa des plus stupéfaits, voyez-vous, mes adorés auditeurs. Si. Voyez-vous, les façades des maisons encerclant la dite place étaient répugnantes comme tapissées d'une écœurante couche de pourriture et l'odeur qui régnait là était épouvantable. De l'ordre de 6 sur l'échelle de Gertrude, c'est vous dire. Mais pourtant, chose totalement incompréhensible, la populace présente sur la dite place offrait cependant un spectacle de liesse. Les gens riaient, dansaient et buvaient sur le rythme d'un orchestre. Une fête avait lieu. Déconcertés, Berlus et son guide s'approchèrent d'un groupe de fêtards pour s'informer, et il leur fut répondu que l'armée des morts-vivants de Marie-Gabrielle avait été mise en déroute. Un voyageur, nommé Mouloud, et arrivé la veille pour acheter un cheval en vue de se rendre dans l'Est, voyant la ville remplie de créatures impies, avait eu un geste inattendu. Sur cette même grande place où nous nous trouvons maintenant, cet homme, l'air scandalisé, avait crié à la sorcellerie et aux infidèles avant de se jeter frénétiquement dans la masse des soldats putréfiés, les attirant vers lui sans le vouloir par sa perturbation de l'ordre. Certains dirent, par ailleurs, que l'étranger portait à ce moment-là une étrange ceinture. Et il y eut alors une violente vague de flammes qui mit en pièces la majeure partie des effectifs zombies alors présents là. Les façades furent donc éclaboussées de leurs restes liquéfiés, et constatant de fait que ces créatures étaient finalement vulnérables, la voie fut alors libre pour la milice de la ville d'aller récupérer ses armes. Elle était au moment même de cette discussion, voyez-vous, en train de parcourir la ville pour finir d'exterminer les derniers cadavres ambulants encore en activité. Le guide de Berlu se réjouit un court instant en apprenant ces nouvelles, mais il retomba vite dans l'inquiétude, aussitôt qu'il fut ajouté que, malgré la bonne nouvelle en question donc, la sorcière tyrannique demeurait toujours en l'hôtel de ville et que ses ambitions n'en avaient pas été diminuées. Du reste, d'aucuns ne se sentaient toujours d'affronter ces terribles pouvoirs.
Certes, cet attentat est un coup de chance qui me fera économiser beaucoup de mana, mais ma mission ici est loin d'être accomplie. Conduisez-moi à la rencontre de votre fille, monsieur, et advienne que pourra.
Après un bref trajet, Berlu fut enfin amené devant l'hôtel de ville de Vrazinia. Notre cher druide somma son guide d'attendre dehors avant de pénétrer dans le bâtiment, à pas lents et prudents, après avoir crocheté la serrure de la porte d'entrée à l'aide de l'une des pointes rétractables de la garde de sa dague enchantée. Archibald visita de nombreux couloirs et pénétra dans bien des bureaux, mais les lieux semblaient déserts. Pas la moindre trace de la terrifiante fillette, et bizarrement, cette absence avait tant duré depuis l'entrée de notre ami que l'hypothèse d'un guet-apens semblait dès lors peu crédible. Finalement arrivé dans le grand bureau du maître de la cité où aurait logiquement dû siéger la sorcière, Berlu ne découvrit là qu'un seul occupant. Tapis, prostré sous une table, un fonctionnaire à lunettes crasseux, couvert de bleu et manifestement terrifié, chouignait en silence.
« Monsieur, vous allez bien ?»«
Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie, la vilaine fille. Tout va bien. Mais il faut pas aller dehors. Non, non, non. Il y a plein de puants dans les rues. Nous allons attendre, oui, mon ami. Nous attendrons dans l'ombre que dans le cimetière, il s'en soit retourné. »
Après avoir été rassuré quant à la situation en ville, le fonctionnaire accepta de parler au druide. Il lui confia que la petite sorcière l'avait laissé vivre pour qu'il lui serve de laquais, d'esclave. Mais il y avait eu la veille, en ville, un terrifiant bruit venant de la grande place, et cela avait contraint sa maîtresse à changer ses plans. Il lui fallait quitter la ville pour aller quérir d'autres morts dans d'autres cimetières, mais elle avait promis qu'elle reviendrait. Sans rien dire de plus, la gamine s'était enfoncée dans un couloir secret, une sortie cachée, menant à un réseau labyrinthique de tunnels et de cavernes, loin sous terre, et débouchant finalement sur une sortie creusée au pied d'une falaise à l'extérieur de la cité. Le fonctionnaire expliqua où se trouvait l'entrée de ce dédale, après quoi il s'éclipsa pour regagner l'extérieur, laissant Berlu seul avec sa réflexion. Notre ami druide, lequel, hésitant mais conscient que le temps pressait et réalisant l'avance que la petite sorcière avait prise, conclut qu'il serait judicieux de prendre conseil auprès de son vieux maître. Il appela donc ce dernier télépathiquement pour lui expliquer la situation.
Je vois. Tu fais bien de m'en parler. Je pense que tu dois effectivement poursuivre cette sorcière, la neutraliser, puis l'entraver le temps que nous trouvions une solution à long terme. Tu pourras la suivre à la trace très facilement grâce à un simple procédé. Il va te falloir construire une boussole rudimentaire. Te souviens-tu? Cette technique basique enseignée en première année.
Oui, oui, je me souviens. Je devrais pouvoir fabriquer cela avec l'aiguille de suture d'urgence glissée dans le manche de la dague enchantée.
Bien, mais il y a juste un détail. Ta boussole ne doit pas chercher le nord, mais diriger vers l'endroit où se trouve la petite fille. Il faudra donc que la pointe de l'aiguille soit maculée de quelque chose qui vient d'elle. Du sang, idéalement, ça marche très bien.
Je doute fort qu'elle en ait laissé, ici ou ailleurs.
Enrouler l'un de ses cheveux autour de l'aiguille, alors, ça marche aussi si la racine est toujours présente à l'extrémité.
Cela prendrait trop de temps à chercher, idem si je demandais à me faire conduire à la maison de ses parents pour fouiller sa brosse à cheveux, si tant est même qu'elle en eût une qu'elle fût seule à utiliser.
Dans ce cas, mon brave disciple, je ne vois plus qu'une seule solution.
Laquelle, maître ?
Ben, tu sais, les sorcières aussi font caca. Bonne chance.
Eh oui, Berlu comprit. Après avoir récupéré une soucoupe profonde sous un pot de fleurs, il la remplit à moitié de soupe de carottes de sa gourde, à défaut d'avoir de l'eau sous la main, et posa ensuite en flottaison au milieu du liquide un petit morceau de parchemin qu'il avait déchiré. Le druide sortit ensuite l'aiguille et se rendit au petit cabinet camouflé derrière une porte dans un coin de la grande pièce pour y gratter une petite traînée brunâtre présente au fond de la latrine. Une fois posée sur le bout du parchemin flottant, l'aiguille fit pivoter celui-ci pour pointer vers la direction de l'entrée du dédale tout en luisant faiblement. Et à Berlu de pénétrer dans le sombre couloir, la boussole dans une main et dans l'autre sa dague, l'arme enchantée éclairant ses pas à l'aide d'une gemme bleue scellée sur son manche et qui pouvait luire sur demande. Et notre ami avança, aussi vite que lui permettait d'éviter de renverser la soupe, suivant les marches de l'escalier qui descendait jusqu'à perte de vue dans les profondeurs ténébreuses.
« C'est trop lent !»
s'exclama-t-il. Aussi, usant d'un sort d'amortissement de gravité, il sauta dans le vide, dans le puits interminable au centre des rampes d'escalier, pour, néanmoins, atterrir en douceur tout en bas de celle-ci, épargnant par cette action un temps précieux. À cet endroit, en bas des marches, un grand choix de couloirs s'offrait à Berlu. Se fiant à la boussole dont la lueur s'était accrue, il prit le second couloir à gauche et marcha un long moment jusqu'à un carrefour perpendiculaire. Là, sa boussole lui recommanda de bifurquer une nouvelle fois sur la gauche, le faisant ainsi pénétrer dans le couloir qui sectionnait celui dont il venait et qui avait pour particularité étrange d'être creusé de façon parfaitement circulaire. Après un autre long moment de marche, alors que l'aiguille de la boussole luisait à présent intensément, Berlu sentit en lui quelque chose d'intrigant, comme la perception d'une présence. Alors, se retourna-t-il brusquement, et c'est avec un mélange de frayeur et de satisfaction qu'il découvrit face à lui la petite Marie-Gabrielle, souriante et vêtue de haillons gris. Ils se dévisagèrent silencieusement quelques secondes, avant que ne commençât la confrontation.
« Alors, on a été une méchante fille, paraît-il. » Et tu t'es perdue dans ces couloirs, on dirait, petite.
Non, mortel. J'ai senti ta venue, je t'attendais.
Oh là, étrange voix pour une fillette. Mais je ne suis pas étonné. Je l'ai souvent dit, c'est typique des sorcières de jouer d'apparence pour s'imposer par la peur. Mais cela ne prend que sur les ignorants.
C'est là que tu fais une erreur, idiot d'humain. Je ne suis pas une sorcière.
À peine la sombre enfant eut-elle prononcé ces paroles que ses yeux étincelèrent et qu'un terrible tremblement fit s'effondrer une partie du plafond de la caverne. Notre pauvre ami druide se trouvait sous l'éboulement, paralysé sous un amas de rochers dont seul dépassait sa tête et l'un de ses avant-bras. La dague, bien que toujours luisante, avait chu un peu plus loin, et l'enfant, lui, souriait toujours.
« Puisque tu sembles avoir tout en temps, mortel, tu écouteras donc mon histoire. »
Et s'ensuivit la conversation que vous pûtes découvrir dans la merveilleuse préface des Grandes Révélations, mes chers auditeurs. Oui, cette conversation où furent expliquées les motivations de cet horrible démon inconnu.
Peu importe ce que tu es et d'où tu viens, esprit malfaisant, je te retrouverai et je te neutraliserai aussi certain que je suis qui je suis, l'aspirant druide Berlu.
Me retrouver, crois-tu? Sache aussi ceci, mortel. S'incarner en un être n'est pas chose aisée. Chaque monde a ses propres codes, son propre système. Il me faut toujours débuter par les organismes les plus élémentaires pour, progressivement, réussir à posséder des créatures de plus en plus complexes. Je dois avouer que ton espèce est l'apothéose de ce monde et qu'elle n'est pas aisée à contrôler. Je ne te cache pas la difficulté que j'ai encore d'ailleurs à manipuler plusieurs humains simultanément. Cependant, comme tu l'auras vu, je puis aisément compenser cela en remuant des cadavres. Mais aussi, il arrive, vois-tu, que les créatures les plus dangereuses, les plus immenses et les plus dévastatrices puissent cependant être de ces créatures les plus rudimentaires, et que je soumets donc sans mal, tout en gardant plein contrôle sur l'enfant que je possède en ce moment.
Où veux-tu en venir ?
Profite de tes derniers instants, être inférieur. Oliogorgon est en chemin pour toi. Adieu.
Et alors que la fillette possédée du démon disparaissait dans l'ombre, un vrombissement lointain commençait à parvenir aux oreilles de notre pauvre ami Berlu. Le bruit s'approchait et les vibrations s'intensifiaient, encore et toujours plus, jusqu'à devenir insoutenable.
Oliogorgon, cette créature existe donc bien ?
Oliogorgon, oui, c'était lui, il arrivait. Souvenez-vous, mes chers auditeurs, oui, ce lombric plusieurs fois millénaire qui, dans sa jeunesse, avait creusé trop profond jusqu'à un puissant gisement radioactif qui le fit muter en un être gigantesque et infatigable, un ver géant parcourant la Terre, laissant derrière lui moult galeries circulaires. Et la paroi de cette galerie-ci éclata soudain sous les coups puissants d'une énorme mâchoire béante et dégoulinante de bave acide, celle de la bête lancée à pleine vitesse. Berlu fut instantanément broyé, lui réduit en charpie sous la masse écrasante de la créature légendaire. Et la gemme bleue de la dague s'éteignit.
Oh non ! Oh non ! Je viens de sentir s'éteindre la flamme de vie de mon cher disciple. Mais, diantre, qu'ai-je fait ?